quel est ton rapport à la lecture ?
Du coup, je ne suis pas quelqu'un qui lit régulièrement, mais ça m'arrive de lire des livres.
C'est quoi ton livre préféré et pourquoi ?
En ce moment, je lis Anne Frank et c'est vrai que c'est un livre qui me plaît énormément. Et pourquoi ? Parce qu'il raconte des choses réelles sur ce qui s'est passé et tout ça. Du coup, j'aime beaucoup.
Et tu préfères quel genre de livre ?
Qui nous informe de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe. C'est très intéressant, qui nous instruit.
Et est-ce que tu lis vite ?
Ça dépend des livres. Si j'aime bien, oui. Sinon, non.
Et combien de livres par semaine ?
C'est rare que je lis, mais de temps en temps, par semaine, une fois au moins, je prends mon livre et je lis. Quel est ton rapport avec la lecture ?
Je ne lis pas beaucoup, je lis surtout les livres imposés par l'école, mais il y a quelques livres que j'aime bien.
Tu sais en dire plus sur les livres de l'école ?
Les livres imposés de l'école, ce ne sont pas mes préférés, je préfère les livres que je choisis moi-même, les mangas surtout.
Un en particulier ?
Death Note, c'est mon manga préféré.
Ok, tu sais nous expliquer pourquoi ?
J'aime beaucoup l'histoire, les personnages, et c'est le premier manga que j'ai lu aussi, donc il est important pour moi.
Quel genre de livre préfères-tu lire ?
Les mangas fantastiques, surtout.
Lis-tu vite ?
Oui, quand j'aime bien un livre, je peux le lire très rapidement.
Et combien de livres par semaine ?
Par mois, plutôt, parce que je lis pas beaucoup. Donc oui, je dirais un livre par mois, à peu près.
Ton rapport avec la lecture ?
Je lis assez souvent. Je lis assez souvent des romans et des mangas. Plus ou moins genre deux par semaine, je dirais.
Ah, waouh, ok. Et...
oui, c'est vraiment. J'aime. Vraiment, j'ai commencé la lecture avec les mangas.
Ok.
Du coup, ouais, c'est vraiment mon genre préféré. Quel est ton rapport avec la lecture ?
Moi, j'aime bien lire. Je pense que c'est un peu un art, tu vois. Et c'est à la fois essentiel pour le développement d'une personne. Un peu. Je pense que c'est une étape beaucoup importante dans la vie de quelqu'un.
Ok. Et ton livre préféré, c'est quoi ?
Mon livre ? Je pense que je n'ai pas vraiment un livre que j'aime bien. Mais j'ai un peu les gens qui je lis le plus, c'est un peu spirituel, on dirait. Un peu... Ouais, un peu comme ça.
Tu lis beaucoup ?
Je lisais plus quand j'étais plus petite. Pas vraiment maintenant. Mais c'est une chose que j'aimerais faire plus, honnêtement.
Quel est ton livre préféré ?
Tokyo Ghoul.
Quel est ton genre de livre ?
Plus des mangas, des livres d'horreur et d'aventure.
Moi, je pense quand même qu'on ne peut pas vivre sans lecture, parce que c'est quelque chose qui est important. Sans lecture, on ne peut pas forcément apprendre les choses d'une autre manière, parce que même pour s'instruire, on a besoin de lire, que ce soit sur le téléphone ou dans un livre ou n'importe. Je pense que la lecture, c'est important.
Radio Clash, une émission réalisée par les jeunes de l'Entrelien. Et ouais, on a tous quelque chose à dire.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Clash consacrée aujourd'hui au prix Farniente. Alors j'ai ici autour de la table des invités et puis bien sûr les jeunes de l'Entrelien qui sont là. Alors on fait un petit tour de table rapidement pour se présenter. Juste à ma droite, nous avons...
Yasmine.
Quel âge Yasmine t'es...
J'ai 16 ans.
16 ans.
Morgane, 16 ans.
Manon, 13 ans.
Déborah, 16 ans.
Mariana, 17 ans.
Saskia, 14 ans.
Et alors nous avons deux invités aujourd'hui.
Noémie.
Noémie du Prix Farniente et...
Et Xavier Deutsch.
Voilà, et Xavier Deutsch. Alors, on vous les présentera tout à l'heure. Alors on va directement commencer dans le vif du sujet. Et nous avons Morgane et Yasmine qui ont préparé une interview de Noémie, puisque Noémie est là, évidemment, pour nous parler du prix Farniente. Qu'est-ce que c'est le prix Farniente ?
Donc, pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que le prix Farniente ?
Oui, bien sûr. Alors, le prix Farniente, c'est un prix littéraire qui a été créé en 2000, qui a la spécificité d'être pour les ados et par les ados. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où on choisit les livres qui vont être dans le prix, il y a déjà des ados qui interviennent. Ce n'est pas des professionnels, des libraires, etc. Ou en tout cas, pas seulement eux qui interviennent dans le choix des livres. Et puis même, petit à petit, là maintenant, on vient de lancer les votes pour la sélection en cours. Ce sont aussi des ados qui peuvent choisir quels sont les livres qu'ils ont préférés.
Ok, merci.
Depuis combien d'années le prix existe ?
Il est né en 2000. Je ne suis pas très bonne en maths parce que moi, c'est plutôt les livres, mais je pense que ça fait environ 20 ans.
Une bonne vingtaine d'années. Quoi. C'est pas mal.
Et d'où vous est venue l'idée du prix Farniente ?
Alors, ça ne m'est pas venu parce qu'en 2000, j'étais encore en secondaire. Mais c'était l'idée de Catherine Jotran, entre autres, et Jacqueline Loss, dont on a pris la relève là cette année. Et elles se sont dit que ça manquait vraiment à cette époque-là... On ne parlait pas beaucoup de littérature ado. Il faut se rendre compte qu'à cette époque-là, Harry Potter n'était pas encore sorti. Et qu'il y avait beaucoup moins d'engouement autour de la littérature pour les ados. Et elles se sont dit que il fallait faire quelque chose et donc elles l'ont fait. Il y a le prix Vercel qui existe en Belgique, qui est un prix pour les enfants jusqu'à 11 ans. Et elles se sont dit, allons dans la continuité et faisons un prix pour les adolescents. Et elles l'ont fait, alors si je me souviens bien, mais il est possible que je dise des bêtises, dans la lignée d'un salon littéraire qui avait lieu à Frameries à l'époque.
Et à part la remise du prix, y a-t-il d'autres choses au programme ?
C'est important à savoir, évidemment.
Beaucoup. Alors, le Farniente, c'est plusieurs choses. C'est effectivement le prix dont on vient de parler, mais c'est aussi le projet Eleonore, qui est un projet qui nous permet de... faire participer des ados qui sont malvoyants ou déficients visuels. En fait, ce sont des groupes d'ados qui se forment et qui enregistrent, qui lisent à voix haute un des romans et qui l'enregistrent. Et comme ça, après, cette prise de son, elle est donnée à la Libraille, entre autres, ou à l'ONA et des choses comme ça. On donne aussi ces CD à des ados qui ont des difficultés de lecture ou d'apprentissage. Par exemple, les ados qui ont des problèmes 10, peuvent nous contacter et on leur donne. Donc ça, c'est une grosse partie du projet aussi. On essaie de mettre en place des rencontres avec les auteurs pendant toute l'année, puisque vous vous en doutez, 21 ans de Farniente, ça fait quand même pas mal d'auteurs différents qu'on a vus. Pas cette année, mais on essaie de le faire. Et puis là, pour le moment aussi, pendant qu'on est en train de parler du prix actuel, on a une soixantaine de bénévoles qui lisent pour préparer le prix prochain.
Il y a combien d'auteurs, du coup, dans la sélection, par exemple ?
Cette année, il y en a 10.
Okay.
Qu'est-ce qu'est Cosmos ?
En mai, on fait une grande journée du Farniente où on va remettre le prix aux livres qui ont eu le plus de votes, mais on va aussi organiser des rencontres avec les auteurs et les autrices. On fait la finale du jeu dont j'ai oublié de vous parler. Pendant toute l'année, on fait un jeu autour de nos livres. Mmh. Et enfin, il y a une journée qui est Cosmos et Farniente ensemble. La trompette de Clio est un de nos partenaires et ils organisaient déjà le festival Cosmos, qui est un festival autour des narrations jeunesse. Et on s'est dit que parler de narration pour la jeunesse, ben, ça allait bien avec nous qui parlons de littérature pour les ados. Et donc, on fait une journée ensemble où on va faire des ateliers et des choses comme ça autour de la littérature parce qu'on trouve que c'est vachement cool.
Et qui participe, dans le fond, du coup, au prix, enfin, à ces activités dont vous parlez parce que vous avez dit au début, c'est par les jeunes, pour les jeunes. C'est qui les jeunes qui participent, en fait ?
Tout le monde qui veut. On a énormément d'écoles qui participent, mais on a aussi des ados qui ont envie de lire et qui viennent, qui ont envie de rencontrer un auteur ou une autrice et qui se rendent compte que cette possibilité-là existe. On a des groupes de mouvements de jeunesse, des groupes de bibliothèques. Enfin voilà, en fait, le Farniente, c'est vraiment ouvert à tout le monde donc, et c'est gratuit. Donc il y a juste à venir et l'endroit n'est pas toujours le même. Donc cette année, c'est Bruxelles.
Mmh. Ok, et vous avez parlé de la finale de Farniente Party. Comment ça se déroule ?
Alors, pendant toute l'année, à partir du mois d'octobre, on a lancé un jeu sur notre sélection.
C'est Farniente Party ou Farniente Game ?
Le Farniente Game.
Farniente Game, ok.
Donc, à partir du mois d'octobre, on propose un jeu inter-équipe pour les ados. Les ados font des équipes de 5 et vont choisir dans quelle catégorie ils jouent. Il faut savoir que le prix Farniente, ce sont deux catégories. La jaune avec 5 livres et la verte avec 5 autres titres. Les titres en catégorie jaune sont un peu plus faciles et accessibles que la catégorie verte. Après, pour nous, qui veut lire quoi ? Tant qu'on lit, c'est cool en fait. Et donc, octobre, on lance ces jeux-là. Les ados choisissent dans quelle catégorie ils veulent jouer. Et sur notre page Instagram, on lance presque tous les mois un défi autour des livres. Alors évidemment, on se dit bien qu'en octobre, tous les livres ne sont pas encore lus. Mais on va avancer petit à petit. La première épreuve, c'était de faire un compte sur Instagram. La deuxième, c'était de réfléchir à un mot qui est vraiment important pour nous et qui s'appelle l'inclusion. Et de dire, ben voilà, c'est quoi pour vous ? Et puis là, on a lancé des quiz autour de tous les livres qu'on avait. Voilà.
Il y a beaucoup de jeunes qui participent concrètement ? Enfin, des écoles, par exemple, des équipes, des...
J'ai pas du tout les chiffres, parce que on est plusieurs dans le Farniente et que c'est un travail qui prend vraiment beaucoup de temps de suivre tout ça.
Et ça se passe sur Instagram, en fait, puisque je sais pas si on l'a dit.
Ça se passe sur Instagram, oui, ouais. Tout à fait. Et pour le moment, je sais qu'on a presque une centaine d'équipes.
Ah ouais, quand même.
Presque. Okay. Si je ne dis pas de bêtises, sinon Lucie et Sophie qui suivent ça me diront que je me suis trompée.
Et comment sélectionnez-vous les livres ?
Alors, on reçoit de la part des éditeurs des services de presse. Donc, ce sont des livres qui sortent dans l'année, qui sont gratuits. Enfin, qui sont gratuits, non, qui nous envoient gratuitement. Comme ça, on les lit. Et on a des groupes de bénévoles. On a une soixantaine de personnes à lire tout ce qui sort et à se dire, OK, est-ce que c'est intéressant ou non pour le Farniente ? On a tout un tas de critères. Le premier, c'est évidemment la langue et le style, parce qu'on reste un prix littéraire d'abord et avant tout. On veut que le livre ait des thèmes sur lesquels on puisse débattre, qui ouvrent l'esprit et qui nous permettent de vivre mieux en société. On veut que ce soit un livre qui se lise en lui seul. Donc si c'est une série,
pas une série quoi, ouais.
Et que la dernière page, c'est un cliffhanger et que c'est à suivre, ben on ne le mettra pas parce qu'il est peut-être très bien, mais c'est très très frustrant pour les gens. On essaie de faire attention à avoir une partie des livres qui ne sont pas des traductions. Parce qu'en fait, un auteur peut être très très bon dans sa langue, mais il y a aussi tout un travail de traduction qui est fait derrière, et les traducteurs et traductrices sont hyper importants, mais c'est encore quelque chose de différent.
Donc dans la sélection, il y a des livres francophones et des livres qui sont traduits d'autres langues.
Ouais.
Par exemple, aujourd'hui, on a un auteur belge parmi nous, mais il n'y a pas que des Belges, quoi. Il y a des auteurs de partout.
Là, cette année, on a vraiment des auteurs de partout, puisqu'en sélection jaune, on a Gary Schmidt, qui habite au Michigan.
On va en parler des...
On a Xavier Deutsch qui est ici à côté de moi, qui lui habite plutôt en Belgique. On a des Français, on a des personnes qui sont au Royaume-Uni aussi. Donc voilà, on a vraiment des gens de partout et on essaie vraiment de faire attention à promouvoir aussi la littérature francophone. Et je me suis un peu perdue dans mes explications, donc j'ai peut-être oublié des critères, mais voilà, on en a tout plein. Et l'intérêt aussi, c'est que les ados doivent trouver ça intéressant. C'est pas juste nous, adultes, qui allons dire « Oh, ce livre, il est bien ». Non, il faut aussi que les ados trouvent ça intéressant pour eux.
Donc vous lisez des tonnes de livres avant de faire la sélection, en fait, tous ensemble, si je comprends.
Environ 400.
Ah ouais. Impressionnant.
Et y a-t-il d'autres projets à venir ?
Oui, mais c'est un secret.
Ah. Bon, on va essayer de tirer les verres du nez peut-être un peu plus tard. Alors, comme le temps passe, on va poursuivre tout de suite et on va enchaîner avec un premier extrait, une première lecture. Donc, on a parlé des livres de la sélection. Eh ben, on va en découvrir quelques-uns aujourd'hui. Et on va commencer avec, justement, Autour de Jupiter de Gary Schmidt. Et donc, c'est une lecture qui a été faite et mise en onde par Evie et Manon. On écoute ça.
Deux jours plus tard, Joseph est revenu frapper chez Madeleine. Il avait fait 10 km à pied. Ils ont passé la journée ensemble, ils ont regardé des films. Elle lui a appris à jouer au tennis sur un court en terre battue. Ils se sont baladés dans les allées du parc et juste avant de partir, il a sauté dans la piscine, tout habillé, en disant que comme ça, il aura moins chaud sur le chemin du retour. Ça a fait rire Madeleine. Cet été-là, Joseph est venu voir Madeleine tous les jours sauf le week-end, parce que ses parents étaient là. Ils regardaient des films et jouaient ensemble au tennis sur le court en terre battue. Ils faisaient de longues promenades dans le parc et nageaient dans la piscine. Elle riait et lui aussi parfois. Madeleine ne lui a jamais demandé pourquoi il avait des marques sur la figure. Joseph ne lui a jamais parlé des raclées qu'il prenait parce qu'il n'accompagnait plus son père dans ses déplacements. À l'automne, on a envoyé Madeleine au collège à Andover. Joseph a été anéanti. Tous les après-midi, il allait à la bibliothèque où il y avait des ordinateurs pour écrire à Madeleine. Écrire, c'était l'enfer, mais c'était mieux que rien, un peu mieux que rien. Elle est rentrée chez elle pour Thanksgiving. Le vendredi, malgré le froid glacial, Joseph a fait 10 km à pied pour aller la voir. C'est la gouvernante qui lui a ouvert. « Tu ne serais pas le fils du plombier ?» Joseph a confirmé. « Est-ce que Madeleine était là ?»« Je te conseille de partir si tu ne veux pas de gros ennuis. » Et elle a fermé la porte. Joseph est rentré chez lui à pied, 10 km. Le dimanche, Madeleine est retournée à son collège d'Andover. Elle est revenue pour les vacances de Noël. Le premier lundi, Joseph a fait 10 km à pied. Il neigeait, le froid mordait et son manteau n'était pas assez chaud. Mais il a parcouru les 10 km et il a frappé à la porte. Cette fois, c'est Madeleine qui est venue ouvrir et elle lui a tendu les bras. Elle l'a fait entrer dans la cuisine. Elle a bu du chocolat chaud et Joseph du café. Assis devant la cheminée, ils ont parlé, puis ils sont sortis. Joseph avait enfilé le vieux manteau du jardinier et ils ont marché main dans la main, dans le parc enneigé et silencieux. Madeleine lui a lancé des boules de neige, sans jamais réussir à le toucher, pas une seule fois. Lui aussi lui a lancé des boules de neige. Mais il ne l'a jamais touché. Envoyer un projectile sur Madeleine, même une boule de neige, il ne pouvait pas. Parce qu'il l'aimait, il l'aimait.
Voilà, c'était la douce voix de Evie sur le texte de Gary Schmidt autour de Jupiter. D'ailleurs, Manon, toi, je pense que tu as lu ce livre. T'en as pensé quoi en deux mots ?
Oui, autour de Jupiter, je l'ai lu. J'ai bien aimé, franchement, c'était une belle histoire. Et à la fin, j'ai pleuré.
Ok.
Parce que c'est quand
même. Noémie fait signe qu'elle aussi.
C'est quand même assez trash à la fin. Enfin, on s'y attend pas du tout. Et ouais, j'étais fort attachée aux personnages, ils sont très attachants. Et j'ai versé une petite larme.
C'est un auteur qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans une émission Radio Clash précédemment. Parce qu'il a déjà fait partie, je pense, Noémie, de la sélection du prix Farniente.
Oui, alors de mémoire, c'était il y a 3 ans, mais peut-être un. Enfin, voilà, environ 3 ans, et c'était pour son roman « Jusqu'ici, tout va bien ». Et alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une suite qui va sortir. Il y a une suite à Autour de Jupiter. Alors, j'étais très étonnée, mais c'est l'auteur qui me l'a écrit. Donc, il est en train de travailler sur une suite.
Super.
Et je ne m'y attendais pas du tout.
Alors, on va parler d'un autre roman de la sélection, puisqu'on a aujourd'hui avec nous, justement, un des auteurs sélectionnés, Xavier Deutsch. D'abord, merci d'être là. Voilà, et c'est Manon aussi, d'ailleurs, qui a préparé quelques petites questions pour vous. On t'écoute, Manon.
Oui, moi, c'est des questions par rapport au mail que vous avez envoyé, surtout.
Voilà, parce que donc, on a été en contact par mail avant que vous veniez, et je pense, Xavier Deutsch, que vous avez l'habitude, de temps à autre, d'aller dans les écoles, on en parlait avant, et vous vous êtes dit, tiens, pourquoi... et ça a beaucoup de sens, d'ailleurs... pour qu'on ne pose pas toujours les mêmes questions, qui sont peut-être des questions un peu bateau, et qu'on puisse un peu approfondir un peu les rencontres. Vous nous avez proposé déjà de lire une série de questions avec des réponses que vous donniez vous-même sur votre travail. Et donc, à partir de là, ben, on a imaginé d'autres choses.
Vous avez le droit de me demander absolument tout ce que vous voulez, hein, mais en effet, quand je me rends dans une école, je demande en général est-ce que l'enseignant fasse lire à ses élèves ce petit texte, parce que ça permet de ne pas partir de rien et d'avoir, voilà, d'avoir un petit substrat de départ. Mais pour le reste, il n'y a aucun interdit. Vous pouvez me reparler de ce que vous avez lu et ça ne me dérange pas du tout.
Ça va. Ben, moi, c'est surtout par rapport à ce que vous avez écrit, en fait.
OK.
Donc, ma première question, c'est est-ce que vous lisiez beaucoup quand vous étiez enfant ou ado ?
Oui.
Et du coup, est-ce que la lecture vous a donné envie d'écrire ?
Ah, ça, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Est-ce que le fait de manger des bonnes choses vous donne envie de devenir cuisinier ? Je ne sais pas. Je pense que ça aide. Hein. Le fait d'avoir vécu dans une famille avec des livres autour de moi, je pense que oui. Enfin, fatalement, c'est un environnement qui était propice. Mais je suis incapable de vous dire ça parce que j'ai 2 frères et 1 sœur qui sont nés dans la même famille que moi et qui ont été élevés de la même manière, qui ne sont pas devenus romanciers. Donc, ça ne suffit pas probablement à expliquer la chose, mais ça doit sans doute contribuer. Mais c'est très mystérieux pour moi. Ce qui a fait que je suis devenu romancier, j'en ai pas la moindre idée.
Ok. Vous dites que vous faites que ça comme métier. Que faites-vous dans les moments où vous n'écrivez pas ?
Ben, je viens vous rencontrer. Mais c'est marrant parce que ça a l'air de vous étonner que ça soit un métier, mais c'est un métier. Enfin, c'est une compétence dont je tire mes revenus. Ça s'appelle un métier. J'ai tendance à considérer que la littérature, c'est pas un gadget, c'est pas quelque chose d'anodin. Je trouve que c'est important. À la surface du monde, ça mérite d'être mis au milieu de ma vie et pas pendant mes loisirs ou pendant mes vacances. C'est important, je trouve, de se consacrer de manière professionnelle à une activité qu'on considère comme importante, enfin, comme c'est le cas de votre professeur. Il enseigne, et ben, c'est pas son hobby, quoi. Le monsieur qui fait de la radio, votre dentiste, votre conducteur de tram... Quand vous montez dans un avion, vous avez envie de savoir que le mec qui pilote l'avion, c'est un pro, quoi. Il ne fait pas ça juste le dimanche après-midi. Donc, c'est important quand on pratique un métier de le faire de manière... Bon, alors, pour répondre à votre question, ce que je fais quand je n'écris pas des romans, moi, écrire un roman, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Hein. Écrire un roman, c'est l'affaire de 2, 3, 4 semaines.
Ah ouais.
Et j'en écris que 1 ou 2 par an. Donc, ça me laisse pas mal de temps pour faire plein d'autres choses, mais plein d'autres choses, c'est répondre à des commandes, répondre à des demandes de rencontres. C'est, et puis je vais me promener, je fais mes courses, je fais des tas de choses.
Parce que c'est ça que je voulais vous demander.
Ironique, vous n'en écrivez que 1 ou 2 par an, effectivement, ça vous laisse beaucoup de temps pour faire autre chose. Non, oui, dis ça parce qu'on peut être étonné, parce qu'il y a quand même des auteurs qui mettent beaucoup plus que ça pour... Non, vous avez une écriture quand même assez prolifique, on peut dire ça ?
Oui, en même temps, après, bon, il faut écrire le roman, puis après, il faut l'accompagner. Donc, l'accompagner, c'est relire les épreuves, et puis lorsqu'un roman paraît, il faut répondre à des services de presse. Enfin, il y a aussi tout un travail qui tourne autour de ça et qui demande un certain temps. Mais, et puis, je m'ennuie beaucoup. Et je trouve que c'est très profitable d'avoir des journées dans lesquelles il se passe à peu près pas grand-chose, où le reste se sédimente. Quoi. Je reçois de la vie, puis la vie me remplit, puis ça se dépose et ça fait pas beaucoup de bruit. Bon, c'est compliqué de vous raconter ma vie parce qu'elle ressemble pas... Enfin, c'est pas très structuré, quoi. Aucune journée ne ressemble à aucune autre, donc c'est compliqué de vous les raconter, mes journées.
Ouais, parce que j'allais dire qu'en faisant des recherches sur vous, justement, j'avais pu voir que vous avez fait une trentaine de livres. Et j'allais vous demander si vous fixez un délai, en fait, pour chaque livre.
Oh non, pas du tout, du tout. Du non, tout. Non. Pardon, hein, je vous interromps, mais c'est une cinquantaine de livres. Mais je ne me fixe aucun délai. Quand vous dites un délai, c'est quoi pour les écrire, ou bien que je me fixe un tempo, ou que je me...
Ouais, un tempo, une date de fin pour votre roman.
Ça vient quand ça vient. Et parfois, il peut passer 2 ans sans que j'écrive quoi que ce soit, et puis je peux écrire 2 livres coup sur coup, il n'y a pas de règle. Je fais comme je sens.
Quand on vous écoute parler, je peux poser cette question-là ou...
Ouais, allez-y.
quand on vous écoute parler, on peut avoir l'impression... Quand on a lu ce petit texte que vous nous avez envoyé, on peut avoir l'impression que vous subissez comme ça vos romans, enfin qui vous viennent, et que vous subissez votre écriture. Est-ce que vous le ressentez comme ça aussi, ou est-ce que vous vous sentez quand même vraiment aux commandes ou...
Non, je suis pas aux commandes du tout. En fait, écrire un roman, c'est un travail qui demande de se déposséder d'un truc. Bon, allez. Je sais que ça, c'est un peu bateau, mais je continue quand même de m'appuyer sur cette comparaison, qui est que pour moi, il y a pas mal de ressemblances entre le fait d'écrire un roman et le fait pour une femme de mettre un enfant au monde. Et quand une femme met un enfant au monde, elle le porte, elle l'accompagne, elle n'est pas aux commandes. Hein. Le truc qui se passe à l'intérieur d'elle, elle ne maîtrise pas, elle ne contrôle pas, elle ne commence pas à rentrer dans son utérus avec des petites pinces pour mettre une vertèbre à la place d'une autre. Elle fait confiance au travail qui se passe à l'intérieur d'elle. Et d'ailleurs, plus elle fait confiance, moins elle y touche, mieux ça va se passer. Mais c'est un boulot. C'est pas de la magie, c'est pas un truc qui se passe comme ça, pop, pop. Alors je le subis pas, parce que subir, ça voudrait dire que c'est pénible. Moi, j'adore, je suis très amoureux de mon métier. Écrire, c'est vraiment mon biotope, quoi. C'est quand je suis à ma table avec mon paquet de feuilles et mon stylo, c'est vraiment le moment que j'aime. J'ai l'impression d'être à ma place sur Terre, quoi. Mais... c'est un travail qui consiste à faire émerger quelque chose que je ne maîtrise pas, que je ne contrôle pas, mais que j'accompagne et auquel je donne forme.
J'ai relevé dans ce que vous nous avez envoyé, vous avez écrit une très belle phrase, je trouve. La littérature, c'est un cheval sauvage qui jaillit hors de son auteur sans que l'auteur ne tente de le domestiquer. Puis il galope à travers les plaines et des montagnes inconnues.
Oui, oui. La littérature, c'est libre. Hein. Faut pas la domestiquer, l'apprivoiser, l'instrumentaliser. Faut pas la charger d'un message, faut pas lui demander de remplir un rôle, faut pas lui demander de remplir une fonction, faut pas lui demander d'être, pardon Noémie, matière à débat, c'est pas son rôle. Si on commence à écrire un roman en se disant, tiens, je vais faire un roman sur le dérèglement climatique, ou sur le... attention, hein, parler ou sur mes émotions, sur mes souvenirs, sur mes fragilités, sur ce que j'ai subi, ou sur ma vision du monde, ou sur le harcèlement à l'école. Parler du harcèlement à l'école, du dérèglement climatique, de mes propres émotions, c'est absolument légitime. C'est pas le boulot de la littérature. C'est le boulot d'un journaliste, par exemple, ou d'un historien, ou d'un psychothérapeute. Et c'est super important. Mais la littérature, elle remplit une autre fonction. Elle transmet pas un message. Elle n'est pas là pour servir à l'auteur à donner son point de vue au monde. La littérature, c'est pas le porte-parole de l'auteur. C'est un cheval cinglé qui traverse les pavés.
Bah, est-ce que ça veut dire que vous savez jamais où vos histoires vont vous mener, alors ?
Jamais. Je commence un roman, j'ai pas la moindre... Non seulement j'ai pas la moindre idée de la manière dont il va se terminer, mais j'ai pas la moindre idée de ce qui va se passer 5 pages plus tard.
Ah ouais.
C'est l'imaginaire qui bosse. L'imaginaire, c'est comme un utérus. C'est hyper fécond, fructueux, et c'est terriblement structurant. De la même manière que dans le ventre de sa mère, le bébé, il va se construire de manière impeccable, parce que l'utérus, il est structurant, et le génome, et les chromosomes, et tout le bazar. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche.
Okay. Mais comment, avec tout ça, vous arrivez quand même à faire quelque chose de cohérent, du coup ?
Mais encore une fois, je suis désolé, hein, je vais finir par être gonflant, mais poser la question à une femme enceinte. Comment, en ne faisant rien, vous êtes en train de former dans votre utérus un enfant qui va être cohérent?
Donc il y a quand même une part un peu de, presque de magie, ce que vous dites. Non, c'est du travail. Mais...
Il n'y a pas du tout de magie. C'est qu'en fait, je vous dis, hein, l'utérus, c'est comme l'imaginaire. Un roman naît dans l'imaginaire. Et l'imaginaire, il est parcouru d'images, de mots, d'odeurs, d'affects et de constructions narratives qu'on a reçues depuis, vous me posiez la question au départ, j'ai grandi avec des livres autour de moi, et de constructions narratives que j'ai acquises depuis quasi le jour de ma naissance. Le Petit Poucet, les histoires d'Astérix, les films, les romans que j'ai lus, constituent mon imaginaire. Et lorsque j'ai un roman, de la même manière que toute une série d'aliments qu'une femme a mangés se métabolise et entre dans son utérus, toute une série d'aliments narratifs que j'ai reçus se métabolise, se métamorphose, alimente mon imaginaire, et le roman à venir va se nourrir de ça. Donc c'est pas de la magie.
Vous dites qu'être romancier est une véritable compétence. Croyez-vous que tout le monde a cette compétence et qu'il suffit de la développer?
Non. Je pense que tout le monde peut écrire, mais tout le monde ne va pas devenir romancier. Tout le monde sait dessiner, mais tout le monde ne va pas devenir Picasso. Tout le monde sait cuisiner, fristouiller un truc le soir, mais tout le monde ne va pas devenir un grand cuisinier. Je pense qu'on a tous dans notre vie une compétence particulière qui nous appartient de développer, d'épanouir, et à laquelle on va demander de nous rendre heureux. Mais je trouve que ce serait mentir si on commençait à dire aux gens « Vous pouvez tout faire, vous êtes capable de tout faire ». Je ne pense pas que ce serait rendre un service de dire aux gens que ce sont des super hommes et des super femmes et qu'ils vont être capables de... Je crois. Par contre, il se trouve que, voilà, vous me posiez, puis je termine là-dessus, mais une des questions que vous me posiez, c'est de savoir ce que je faisais de mes journées. Il m'arrive d'animer ce qu'on appelle les ateliers d'écriture, à l'occasion desquels des gens se rassemblent et j'accompagne leur écriture. Et je les aide à se connecter à leur imaginaire pour qu'eux se mettent à écrire. Et ils y trouvent beaucoup de bonheur. Il est arrivé que l'un ou l'une d'entre eux ou d'entre elles finisse un jour par publier un roman. C'est arrivé même récemment. Mais ce n'est pas le cas de la majorité d'entre eux, mais je ne leur dis pas qu'ils vont publier des romans. Je ne vais pas leur mentir. Je leur dis, venez prendre du plaisir à ressentir votre imaginaire et à en faire émerger un texte.
Super. On va écouter un deuxième extrait d'un autre livre de la sélection. Alors, ce n'est pas celui de Xavier Deutsch. On va reparler après de Homme noir sur fond blanc, mais à présent, on va écouter un extrait de Féline. Féline, de quel auteur?
Tu peux Stéphane Serrant.
Merci, Noémie. Et donc, c'est une lecture et une mise en onde de Daphné.
Le jour se levait, il y avait un grand silence. Une poignée de journalistes se tenaient à l'entrée du parc. Leurs caméras étaient braquées sur nous. Pas un mot n'avait été prononcé, mais nous savions toutes que c'était le moment. Malgré le froid de décembre, une à une, nous avons commencé à nous dénuder. J'ai enlevé ma cape et je l'ai tendue à mon père. Cette cape, qui avait appartenu à ma maman, et qui avait longtemps été comme une carapace pour moi, je n'avais plus à me cacher dessous. Veste, pull, chaussures, jeans, sous-vêtements, nous avons tout enlevé. Tout, même les cartes d'identification que nous étions obligés de porter en permanence. Nous sommes montrés tels que nous étions. C'était impressionnant de voir tous ces corps, tous ces pelages. Dans l'air vif du matin, je sentais l'odeur de tous ces corps, une cinquantaine de parfums différents. Je sais que pour vous, nous sommes toutes identiques. Un visage, des membres, des poils, c'est tout ce que vous voyez. Pour la plupart des gens, nous sommes pareils à des animaux, interchangeables, indéfinis. Et pourtant, ce matin-là, nos différences sautaient au visage. Nous étions aussi différentes qu'avant, en fait. Sauf qu'avant, nous n'assumions pas nos corps. On nous dictait comment être. On nous répétait sans cesse « Sois belle et tais-toi ». On nous voulait fine, glabre et douce. On décidait quelle devait être la taille de nos jambes, la forme de nos seins. Et là, dans le parc, alors que toutes les filles se déshabillaient, sans honte, j'ai réalisé que ces poils sur nos corps nous avaient affranchis de tous les codes, de tous les modes. Nous étions rousses, blondes, brunes. Nous étions enrobées, maigres, petites ou grandes. Oui, nous étions tout ça, mais nous étions enfin nous-mêmes, différentes et fières de l'être. Nous avons déplié nos banderoles où le « Nous sommes » écrit en violet et en lettres capitales, suivi par tout un tas d'adjectifs que chacune avait choisi, et nous avons pris la direction du centre-ville.
Voilà, c'était donc un extrait du roman Féline qui fait partie de la sélection de cette année.
Dans la même catégorie que le livre de Xavier Deutsch, voilà. en sélection verte.
Sélection verte. Et voilà, c'était lu et mis en onde par Daphné. On va reprendre quelques petites questions. Oui, Nanon.
J'ai juste une petite question pour vous. Vous voulez bien rappeler c'est quoi la différence entre la sélection jaune et verte ?
Oui, bien sûr. Alors la sélection jaune est plus facile d'accès en fait que la sélection verte, que ce soit par la taille des livres ou par le vocabulaire utilisé ou par les thèmes qui sont abordés, parce que dans la sélection verte cette année, Féline, je pense à Féline, je pense aussi à La Proie, sont émotionnellement plus durs à lire, et donc c'est juste une sorte de graduation, mais qu'on prend en compte ou pas.
Mmh. On va venir à un moment, quand même, parler un moment du livre de Xavier Deutsch qui est dans la sélection de cette année, puisqu'il est on a la chance de l'avoir avec nous. Ça s'appelle « Homme noir sur fond blanc ». Xavier Deutsch, vous dites, j'ai lu ce que vous nous avez envoyé, qu'à aucun moment aussi vous n'essayez de faire passer un message dans vos romans. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un peu extrême de dire ça, parce que est-ce qu'il n'y a pas quand même... Enfin, voilà, ici, si on prend l'exemple de ce roman-ci, on est sur un thème de société très très fort, donc ça parle des migrants et de la façon dont ils sont accueillis ou mal accueillis, peut-être même plutôt en Belgique en particulier. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un message sous-jacent ? Enfin, ce n'est pas votre intention peut-être, mais...
J'assume complètement. C'est probablement un des moins littéraires de mes romans. Voilà. Et non seulement il y a un message, mais même la toute dernière page, j'adresse une série de remerciements.
Oui.
Où clairement, je prends ce qu'on peut appeler une position politique et je l'assume absolument, sans aucune espèce de difficulté. Pour autant, Homme noir sur fond blanc, c'est quand même, à mes yeux, même si je dis que c'est le moins littéraire de mes romans parce qu'il emporte avec lui des thèmes de société qui est moins d'en débattre, à mes yeux, il reste quand même un roman parce qu'il m'a échappé, parce qu'il y a vraiment des moments où la narration, elle a suivi son cours. Mais j'accepte absolument ce que vous me dites.
Mmh. Du coup, c'est parti d'où l'envie d'écrire sur ce, à partir de ce sujet-là. On imagine qu'il y a eu des rencontres de votre côté avec des migrants, parce qu'on sent qu'il y a un vécu quand même.
Ça, c'est dommage qu'on sente qu'il y a un vécu, parce que je préférerais vraiment que le roman se passe complètement de moi. Pour moi, mes romans, ils comportent toujours une étrangeté. J'ai toujours du mal à en parler, j'ai pas envie de les accompagner beaucoup, j'ai envie qu'ils tirent leur plan, j'ai envie qu'ils soient le plus séparés de moi.
Mais ils tirent très bien tout seuls, je vous rassure.
Voilà, ça me rassure et ça me réconforte. Mais c'est vrai, je peux pas nier que c'est un roman qui a été écrit sur la base de quelque chose qui a été pour moi important, enfin, qui est toujours d'ailleurs pour moi important. C'est, parmi tous mes romans, c'est quelque chose de très particulier. Je tourne autour, je le regarde. Je ne sais pas très bien quoi en dire ni quoi en raconter. De tous mes livres, il est celui qui est le plus proche de ce que j'ai pu vivre dans ma propre vie, alors que mes autres romans, je ne dirais pas qu'ils ne me ressemblent pas, mais ils s'éloignent de moi, ils sont émancipés, affranchis, ils sont libres, ils vivent leur vie. Dans ce cas-ci, il y a quand même des traits de ressemblance.
Oui, Noémie.
Si je peux me permettre, c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans ce livre, c'est que on le sent en le lisant que c'est pas un livre de commande. Hors des livres de commande sur des sujets de société, ouais, il y en a, il y en a beaucoup. La migration est un sujet extrêmement d'actualité et pour moi qui suis une grande lectrice, voire une dévoreuse, je trouve, je fais assez vite la différence entre un livre qui va sortir des tripes en fait et plus contre un livre qu'on aura pour lequel on aura une commande. Et celui-ci, oui, il parle de migration. Il y a un clin d'œil à la team du parc que j'ai apprécié beaucoup.
Parc Maximilien.
Oui, oui, les gens du parc Maximilien. Mais on sent, ou en tout cas moi j'ai senti que c'était quelque chose qui était... qui avait un besoin de le sortir et que c'était pas parce que la migration, on va en parler aujourd'hui. Et c'est pour ça que tout à l'heure, vous disiez « Ah, mes livres n'ont pas de thème. » Enfin, les livres ne doivent pas être sujets à discussion. Mais parfois, les sujets sont là. Sans que ce soit fait exprès, et c'est ça qui est le plus intéressant pour moi.
Oui, et encore une fois, j'assume ça complètement, et bien sûr que ce livre est sorti au plus près de mon existence et de ce que mon existence comporte. Oui, oui, bien sûr.
Mm-hmm. Par rapport à la manière dont vous avez écrit ce livre, justement, moi je me demandais, parce que on en a discuté un peu ici en classe avec certains élèves, qui disaient, c'est quand même pas facile le début du livre, enfin, dans le sens... pas facile à lire parce qu'on a énormément de personnages au début qui apparaissent, donc beaucoup de noms qui sont cités, on est dans beaucoup d'endroits différents, et moi j'ai un peu eu l'image en le lisant, ouais, d'une roue, comme la roue de la fortune là, à l'époque, avec une aiguille, et on passe devant plein de personnages, et puis à un moment donné le bouquin se penche en particulier, ouais, sur un des personnages qui s'appelle Brahim. Et alors, on raconte l'histoire de ce Brahim jusqu'à la fin. Mais comment ça vous est venu,
Je ne sais pas. C'est venu comme ça, voilà. La lumière ne se mange pas. Ça commence comme ça. La lumière ne se mange pas. Oui. Heureusement, si la lumière se mangeait, il ne crèverait pas de faim, les gars. Hein. Mm-hmm. Je ne sais pas. Encore une fois, ça ne procède pas d'une réflexion de ma part. On voit une petite scène de 10 lignes au Mali, puis une petite scène de 10 lignes en Érythrée, puis... Mm-hmm. Voilà, des petits flashs sur la misère humaine et ce que la misère humaine comporte, sur la violence politique, la violence militaire, la violence climatique, la violence qui contraignent ces gens à prendre des routes et à rejoindre l'Europe. Alors c'est vrai qu'on me l'a dit que le début était compliqué, ça clignote d'un pays à un autre. Bon, moi le seul conseil, c'est vous tracassez pas, quoi, essayez pas, ouais, de les retenir tous. Ouais. Laissez-vous faire, exactement, vous traversez ces paysages. Jusqu'à ce qu'en effet, un des personnages finisse par imposer sa présence et qu'on finisse par le suivre.
Ouais. Mais c'est bien que vous disiez ça, parce que c'est le conseil que j'avais envie de donner aux jeunes. Moi, j'ai lu le roman, mais je l'ai commencé après certains de mes élèves. Donc, je leur ai dit, il faut s'accrocher parce qu'effectivement, après, on retombe sur... c'est beaucoup, beaucoup plus... comment dire, linéaire, on retombe sur un personnage. Oui. Manon, qu'est-ce que t'en dis ?
Ça a été le cas pour moi, par exemple, en lisant le livre, je suis arrivée à la page 30, je crois, je l'ai recommencé 5 fois, parce que j'ai vraiment eu du mal à retenir les histoires, les prénoms, de début, quoi, sans savoir en fait que ça se baserait sur une seule personne à la fin, et ça a été dur pour moi aussi, le sujet en fait du livre aussi, le début, ça m'a un peu bloqué, mais bon, je trouve que c'est bien, c'est très bien écrit, mais je veux dire, ça m'a fort touché aussi.
Après, il faut faire son expérience de lecteur, hein, parce qu'on a certains lecteurs ici qui sont encore très jeunes. Hein. Manon, toi, je pense que tu as 13 ans. Donc,
moi, je suis une des plus jeunes.
Voilà, mais voilà, déjà, c'est chapeau d'avoir attaqué Homme noir sur fond blanc, qui est quand même dans la catégorie verte, qui est la catégorie un peu plus compliquée. Vous vouliez dire quelque chose, Xavier ?
Oui, mais machin, je crois que c'est un livre qui circule, par exemple, dans les écoles. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les écoles, ils sont obligés. Donc, même s'ils ont du mal avec les 15 premières pages, ils sont quand même obligés d'aller au-delà.
Est-ce que c'est bien qu'ils soient obligés ?
Voilà. Oui, moi, j'aime bien qu'ils soient obligés. Parce qu'après, ouais. Oui, attendez, quand même, je gagne ma vie. Donc, oui, moi, j'aime bien. Est-ce qu'il faut obliger des enfants à manger des épinards quand ils n'aiment pas ça ? C'est bon pour eux. Alors que vous allez manger vos épinards, les enfants. Je vais me faire flinguer à la sortie de ce spin.
Non, pas du tout. C'est une antenne libre ici.
Enfin, je sais pas. Je trouve que ça fait partie de l'apprentissage de la vie, de devoir aller un petit peu au-delà d'une réticence première. Et ça me fait plaisir quand vous me dites qu'au bout de 30 pages, vous êtes embarqué dans le truc et que... En même temps, ça, vous n'êtes pas la première à me le dire et ça m'intéresse. Et je me dis, tiens, voilà, si, ça devait, si, si je devais le réécrire, est-ce que je ferai un peu attention? Est-ce que le début, je serai un peu plus attentif à, au confort de mon lecteur? Et finalement, non. Voilà, il est comme il est.
Voilà, il est comme il est. Il est très beau, ce livre, même si, voilà, on ne va pas spoiler, mais c'est un livre qui est émotionnellement aussi un peu dur, quoi.
Oui, mais ça reste.
Il y a eu des larmes chez Noémie.
Il y a eu des larmes, évidemment, mais je fais partie de l'équipe des Cœurs d'Artichaut, donc c'est pas tellement compliqué de me faire pleurer sur un livre, parce que moi, j'ai une relation très émotionnelle au livre et je me fais très vite embarquer. Par contre, je ne retiens jamais les prénoms, parce que quand je lis, ben, les prénoms des personnages, ils passent et c'est tellement fluide dans ma lecture que. Il a fallu que j'attende les films Harry Potter pour savoir comment s'appelaient les personnages, par exemple. Okay. Voilà, si on retient pas, c'est pas grave.
Super. Alors, on arrive tout doucement au terme de l'émission, mais on va écouter un dernier extrait, une dernière lecture d'un des romans de la sélection. Il s'agit donc de Par le feu. C'est aussi un très beau roman qui est basé, je pense, sur... sur un fait divers aux États-Unis, enfin un fait divers, je ne sais pas si on peut appeler ça un divers, un fait d'actualité.
Oui, c'est un livre qui s'est entre autres basé sur, des histoires de sectes en fait aux États-Unis. C'est Will Hill qui a écrit cela et qui a fait quelque chose de très intéressant, je trouve. Et à la fin du roman, il explique quel a été son processus et j'ai trouvé ça très intéressant qu'il explique que oui, il a pris un fait divers réel, mais que c'était important pour lui aussi de respecter les personnes qui ont vécu tout ça et donc de faire rentrer une narration et de l'imaginaire dans cette histoire de secte qui est difficile et qui est intense.
Mmh. Donc Par le feu de Will Hill qui est dans la catégorie jaune alors ? Ah, je pose une colle à Noémie.
J'ai un doute.
Mais alors, ça me donne l'occasion de vous dire d'aller vérifier sur le site internet du Prix Farniente. Qui est très bien fait. Voilà, prixfarniente.be, je pense, l'adresse.
Oui, c'est ça. Et c'est sur notre site qui est en cours de construction, donc il va encore changer bientôt, mais on essaye de le rendre le plus clair possible. Sur notre page Facebook et Instagram aussi, c'est @leprixfarniente.
Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'autres livres dont on n'aura pas pu parler aujourd'hui. Et vous pourrez trouver une présentation de chacun des livres sur le site. Donc je vous invite à y aller. En attendant, on écoute donc cette lecture de Par le feu qui est faite par Daphné à nouveau.
Je l'ai fixé pendant plusieurs secondes, folle de rage, avant de tourner les talons. C'est là que le bruit a commencé, sourd et distant. La route de terre qui relie le grand portail à la nationale fait presque 2 km. Mais quand le vent souffle dans la bonne direction, on distingue parfois le grondement lointain des moteurs. On ne voit jamais les véhicules eux-mêmes à cause des 2 collines qui bloquent la vue au sud. Je joue souvent à deviner à quoi il ressemble. Il y a des gros camions qui se traînaient devant nous à l'époque où on allait encore en ville. Les bus jaunes remplis d'enfants. Les familles dans leurs voitures avec leurs mobilhomes qui chantent à tue-tête en écoutant la radio. C'est d'abord ce que je crois entendre aujourd'hui. Plantée au milieu de la cour, je tends l'oreille. Le grondement sourd est bien celui d'un moteur, pourtant je perçois un détail inhabituel. Il est de plus en plus fort. Plusieurs de mes frères et sœurs se sont figés autour de moi. Personne ne dit rien, personne n'a l'air vraiment inquiet, mais tout le monde écoute. Sous le porche de la maison, Bella berce l'un de ses enfants. Jacob Reynolds se tient tout près de la chapelle, les yeux tournés vers le sud. Au bout d'un moment, le sol se met à vibrer sous nos pieds. Il arrive parfois, bien que très rarement, que des habitants du coin conduisent jusqu'au gros portail pour observer les cinglés de la Légion. Mais cette fois, ça ne ressemble pas à une voiture ou un pick-up. Ça a l'air plus gros, beaucoup plus gros. Les poils se dressent sur mes bras et j'ai une sensation de vide au creux du ventre, comme si je n'avais pas mangé depuis des jours. Mon regard reste rivé sur le premier virage, à une centaine de mètres environ du portail. L'air matinal est tiède et parfaitement immobile. On dirait que le monde entier s'est mis sur pause. Puis un énorme engin noir apparaît sur la route et tout le monde détale en criant. Il est identique au tank que j'ai vu à la télévision avant la purge, quand on pouvait encore regarder des films. Six roues gigantesques soutenant une boîte de métal, rectangulaire, surmontée d'une tourelle munie d'un long canon. Il avance lentement, entouré d'un nuage de fumée. Son approche a quelque chose d'horriblement inéluctable. Jacob traverse la cour en hurlant à plein poumon, pendant que les autres s'éparpillent dans toutes les directions. La porte de la maison s'ouvre à la volée sur le père John, qui paraît extrêmement contrarié. Il ouvre de grands yeux avant de retourner à l'intérieur. Sa voix résonne au-dessus de nos têtes, nous intimant de prendre les armes. J'ai la chair de poule. Je repense à l'AR-15 qu'Amos m'a donné. Il est posé sur ma table de nuit, chargé, prêt à tirer. Le tank s'arrête devant le grand portail. Derrière lui, une longue file de véhicules s'étire sur la route. Il y a des fourgons noirs marqués des lettres ATF, des ambulances rouges et jaunes, des jeeps verts foncés et une demi-douzaine de voitures noires et blancs. L'une d'elles se range sur le côté, ce qui me permet de lire l'inscription sur la portière. Mon cœur cesse de battre. Département du shérif du comté de Layton. Je ne peux plus bouger. Je ne peux plus respirer. Je contemple ces mots, l'esprit emplé d'une pensée effroyable. C'est moi qui ai causé tout ça.
Et voilà, de retour pour la fin de notre émission Radio Clash consacrée au prix Farniente. Il nous reste quelques minutes. Noémie, peut-être que ce serait l'occasion que vous nous rappeliez les prochains rendez-vous pour le prix Farniente, puisque c'est loin d'être fini toute cette aventure.
Ah oui, très loin. Alors, dans l'immédiat, les votes sont lancés, c'est-à-dire que toute personne qui a lu au minimum un livre de notre sélection peut aller sur notre site internet et voter pour les livres préférés à coup de petits cœurs, entre 0 et 5 petits cœurs par livre. C'est un vote qui est anonyme et il y a moyen de gagner des lots, donc n'hésitez pas à y aller. Sinon, les 7 et 8 mai, à Bruxelles, on va faire la Farniente Party, donc la grande fête, avec, on l'espère, des rencontres d'auteurs. Enfin, dans tous les cas, il y aura des rencontres d'auteurs et d'autrices. On ne sait pas comment, dans quelles conditions,
bah
parce
oui,
que voilà,
évidemment.
Mais il y aura, et c'est à cette occasion, c'est le 8 mai, qu'on découvrira quels sont les deux livres gagnants pour l'édition de cette année, mais qu'on découvrira aussi quels sont les nouveaux livres sélectionnés pour 2022.
Ok, et normalement, à ce moment-là, là, au moment de la remise du prix, le vendredi, c'est le 7, on sera présent aussi avec Radio Clash pour une émission spéciale dans le cadre de la remise du prix. Donc on reconsacrera un numéro au prix Farniente. Manon, tu veux encore nous dire quelque chose?
Oui, j'ai une dernière petite question pour vous, Xavier. Est-ce que vous avez des projets en cours? Enfin, un projet en cours?
C'est pas très clair. J'ai très envie de me mettre à écrire un roman, mais je ne sais encore pas du tout à quoi il ressemble et à quoi il va ressembler. Donc ça fermente.
Ça fermente.
Je m'ennuie, donc c'est bon signe.
Super, on attend ça avec impatience. Eh ben, merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. Merci encore à nos invités du jour, Nomi Once, la présidente du Prix Farniente, s'il vous plaît, et Xavier Deutsch, l'auteur de Homme noir sur fond blanc et de bien d'autres romans. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir tout le monde.
C'était Radio Clash, l'émission réalisée par les jeunes de l'Entrelien. Vous pouvez retrouver toutes nos productions sur www.radioclash.be ou sur www.radiopanique.org/émission au pluriel/radioclash.